Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Samedi 27 novembre, certains qu'il y en a qui sont déjà en train de réfléchir à leur cadeau de Noël. Vous avez commencé peut-être Jade?
Bah évidemment, il y a
longtemps. Vous avez choisi le mien ou pas?
Non, toujours pas. Je sais pas si vous méritez.
On va vous offrir en tout cas un très beau cadeau ce matin, chers auditeurs. Encore mieux que le robot multicuiseur, un artiste multifonction, il sait tout faire. Jouer la comédie, faire des sketchs, des mimiques irrésistibles, chanter, jouer de la musique.
Sans oublier la fonction perturbateur d'émissions de télé, car sur un plateau, il ose absolument tout. Même demander ceci à Jean-Pierre Foucault, dans Qui veut gagner des millions.
Un palier à 1500, un palier à 48 000, le million. À l'issue de la 12e question.
Est-ce que vous avez l'argent? On ne sait jamais, t'imagines?
Oui. Question. Dans les années 80, quelle émission pouvait-on regarder le vendredi soir? Apostrophe.
La règle d'apostrophe, rappelez-nous la règle.
Eh bien, il s'agit d'ouvrir tous les livres à condition, évidemment, que le 7 sorte sur le 9 rouge et que Maître Jonas donne la bonne réponse le mercredi dans l'Allier. Uniquement dans l'Allier.
Bonjour Michel Leb.
Bonjour.
Ou plutôt, bonjour Guy Lux. En même temps, vous l'avez bien connu, Guy Lux. C'est lui qui vous a fait faire votre première télé, même qu'il y avait eu un petit raté, je crois. Il vous avait oublié.
Il m'a oublié, oui. Il m'a demandé de venir et de faire un petit sketch entre Michel Sardou et Johnny Hallyday. Et donc, au moment où Hallyday a fini de chanter, Johnny fini de chanter, les caméras passent devant moi et Guy Lux dit « Eh bien, on va applaudir notre Michel National, c'est formidable qu'il soit là », je dis « C'est vachement sympa, c'est ma première télé, je suis déjà Michel National, c'est rapide ». Eh bien, voici Michel Sardou. Et Coco est terminé. Et mes caméras sont passées sous le nez.
L'émission était finie.
C'était fini. Ouais. Alors, j'ai fait le tour du plateau pour aller voir Guy. Et je dis, mais moi, qu'est-ce qui se passe? Qui tu es, toi? Retourne là-bas, je verrai ça la semaine prochaine.
Et il avait tenu parole.
Il a tenu parole, il m'a repris chaque semaine.
Bon, Michel Leb, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous souhaite une fin de matinée plus calme que ce que vit votre personnage dans la pièce Inavouable à la Comédie des Champs-Élysées, où vous incarnez Gaspard, le patriarche d'une famille sans problème, du moins en apparence.
Tout va dégénérer le jour où vous devez garder votre petit-fils. C'est l'élément déclencheur.
Voilà, on s'aperçoit que elle et lui, c'est-à-dire mon fils et ma belle-fille, ne s'entendent pas. Elle a trouvé un petit ami, ils vont partir à Capri avec son petit ami, elle part avec lui, et laisse mon fils à la maison. Et à partir de ça, se déclenche tout un truc volcanique. Quoi.
Un cataclysme, on appelle un autre. Ah, c'est mené tambour battant. Là, on sent le Michel Leb musicien, le chef d'orchestre. Hein. C'est joué comme une partition, il y a un rythme effréné. Hein.
Ah oui, l'écriture d'Éric Assous, que je salue puisqu'il n'est plus là.
C'était sa dernière pièce,
d'ailleurs. C'était sa dernière pièce. Je pense qu'il l'a écrite pour moi, ce qui est magnifique. Et la pièce est extrêmement drôle. On rit d'un bout à l'autre, franchement. Et moi, je me régale, parce que la construction est extraordinaire.
Ça va... On ne sait jamais où on va aller.
Ah non, ouais. Mais c'est de pire en pire. Hein. Ça finit en apocalypse.
Bon, Michel Leb, j'espère que vous avez une meilleure mémoire que votre personnage dans la pièce. Parfois, il fait semblant, en tout cas, de ne pas se souvenir.
Oui, mais il est de mauvaise foi. C'est un épouvantable personnage. Non, c'est vrai, c'est exagéré ce que je dis.
Votre mémoire, on va la vérifier tout de suite.
Archive ou archifo?
On affirme des choses sur vous, Michel Leb. Si vous pensez que ça s'est vraiment passé, vous nous dites archive, sinon archifo.
Alors un jour, vous avez subjugué un monstre sacré du cinéma en l'imitant à merveille à la télé. Archive ou archifo?
Archive.
Oui, vous pensez à qui?
Jean-Pierre Marielle.
Exactement.
Bingo.
C'est ce grand Jean-Pierre Marielle que vous aviez laissé sans voix en imitant la sienne sur le plateau du journal d'Antenne 2.
C'est
à
exact, oui.
Je suis né à Paris le 12 avril 1939. Franchouillard, béret baguette ou anard virulent, c'est à vous de me dire ce qui me va le mieux.
C'est très étonnant. L'impression très curieuse de s'entendre comme ça.
C'est Michel Leb qui est donc un comédien, surtout un imitateur en l'occurrence, et qui, je crois, a bien saisi votre tonalité, non?
C'est très étonnant en tout cas, bravo. Je n'avais jamais entendu, c'est surprenant.
C'était Philippe Labro qui présentait en Antenne 2 Midi. La classe de troubler à ce point-là Jean-Pierre Marielle. Hein.
Ah ben oui, d'ailleurs, ça s'est reproduit chez Drucker. En présence de Jean-Pierre, Jean-Paul Belmondo et Drucker. Alors donc, je faisais les deux. Je faisais Belmondo et Jean-Pierre Marielle dans un sketch. Autant Jean-Paul riait, trouvait ça super, se marrait parce que c'était son tempérament. Autant Marielle était troublée, il était angoissé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est moi ça. Ben oui.
Et oui, c'est un miroir. Voilà.
Ça trouble à certaines personnes.
Allez, autre archive ou archifo.
Alors Michel Leb a tourné dans un James Bond, Goldfinger. C'est vrai ça? Archive ou Archifaux ?
C'est Archifaux.
Oh, ça n'a pas tapé loin. Il y avait
ça s'appelait Godfinger. Oui. Godfinger.
D'accord.
Où certaines chattes n'aiment pas le mou.
Voilà, c'est pas le même genre de film. Alors, c'était plutôt 00 sex. Enfin, non, si, il y en avait.
On n'avait pas le sous-titre.
Mais quel rôle vous aviez là-dedans ? Mais vous n'étiez pas acteur.
Non, j'étais à laveur des carreaux qui matait.
Ah.
Je matais. Je lavais les carreaux et hop, on voyait tout d'un coup une petite scène légère, une scène de une petite sauterie joyeuse. Mais,
c'est le cas de le dire.
Mais pas du tout. C'était pas du porno, quoi. C'était
érotique.
Ouais, c'était un film érotique, un peu comme ça. Et je ne participais à aucune joyeuseté.
Godfinger, est-ce que vous vous souvenez du générique de ce film érotique, monsieur?
Ah non, pas du tout, non.
Nous, on l'a retrouvé.
Oui, allô? Pouvez-vous me donner l'heure d'arrivée de l'avion venant de Tagabombo, s'il vous plaît?
Eh ouais.
Bah ouais.
Et ils avaient pris la musique des chiffres et des lettres, ce qui est quand même bizarre pour un film érotique, même si c'est une question de tirage aussi.
C'est une question de tirage, quand même. J'ai les voyelles.
Le X.
Le X.
Allez, dernier test de mémoire.
Alors l'attention, ça peut être gênant, Michel, si je vous dis que vous avez déjà chanté à la télé entouré de filles en maillot de bain. Vous me répondez archive ou archifaux?
J'ai archive.
C'est bien, au moins il avoue.
C'était en 1986, dans l'émission Toute folle de lui, animée par Christophe de Chavannes.
Bonsoir les filles.
J'ai le regard de Newman, la force de Superman, quelque chose de ricain en plus. Ah, c'est trop.
Ah, il se souvient des paroles, il nous fait la choré même. Oui. Ça s'appelait.
Je suis un tombeur.
C'est le tombeur. C'était la.
C'était musique. Votre période Latin Lover, c'était pour la pièce du même nom.
Voilà, la pièce de Robert Lamoureux qui s'appelait Le Tombeur.
Vous avez vendu beaucoup de ces disques ?
Énormément.
C'est vrai ?
J'en ai deux déjà. Ma mère en a pris un. Et moi j'ai gardé l'autre en stock chez moi.
Jusqu'à midi et demi, on fait la télé avec un tombeur qui va lui-même tomber de sa chaise quand il va entendre ce qu'on a retrouvé sur lui. A tout de suite, Michel Leb, on est ensemble jusqu'à midi et demi sur RTL.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le CV télé.
Michel Leb, on va revenir sur quelques lignes importantes de votre CV version télé. On a retrouvé des moments de télé avec vous que vous allez devoir identifier grâce à nos indices.
Attention, c'est très dur la première. Si je vous dis rampant, volant, spray, vous pensez
ça
à quoi?
C'est facile.
J'aurais préféré que vous fassiez les bruitages, hein, vous voulez pas?
Ah non,
ça faisait...
pas devant lui en tout cas.
Vous me demandez, je peux le refaire. Hein.
Bien sûr, c'est votre célèbre pub télé pour un insecticide.
On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les, il y a bon jaune et contre les... Il y a bon vert.
Bon, alors cette pub, on s'en souvient comme si c'était hier. C'était pourtant il y a 41 ans.
Oui, et ce qu'il y a, c'est que les gens, quand je fais un one man, ils me le redemandent. Voilà. Ça, c'est quand même incroyable.
Comme c'était un de vos sketchs, quoi, en fait.
Voilà, voilà.
On vous en parle toujours.
Oui, bien sûr.
Bah, oui.
Allez, autre ligne sur votre CVTV.
Alors, les mots secrétaire, chariot, chef de rayon. De quoi s'agit-il?
Alors ça doit être un certain Leb Show.
On parle d'un chariot. Célèbre machine à écrire. Celle de Jerry Lewis.
Ah oui.
Ce sketch de la machine à écrire, vous allez lui offrir un nouveau succès en le reprenant dans les années 70 sur scène, mais aussi à la télévision. Tout le monde vous le réclame. Et alors, il y en a un chez qui ce sketch de la machine fait gling. C'est Charles Aznavour.
Mais oui, puisque c'est à cette époque qu'il vous repère, Charles Aznavour. Il a un vrai coup de cœur pour vous. Vous étiez revenus tous les deux sur cette rencontre dans une émission de Frédéric Mitterrand en 1994.
Depuis le temps où je l'avais vu une fois à la télévision ou deux fois ensuite, et puis je l'ai vu faire... Et je lui ai dit, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. J'ai dit, vous pouvez faire autre chose. Et je lui ai dit, et si vous partiez en tournée avec moi?
Michel, ça doit être faire un effet incroyable.
Moi, je ne l'ai pas cru d'abord. C'est pas possible. C'est inouï ce qui m'arrive là. Je serais même parti gratuitement, moi.
J'aurais dû le savoir.
Charles Aznavour, il était devenu au fil du temps votre ami. Michel Leb, ça fait un peu plus de 3 ans qu'il nous a quittés le 3 octobre 2018. Il vous manque?
Beaucoup, parce que... D'abord, j'habite pas très loin de chez lui. Quand je suis en Provence, on est à une demi-heure de route. Et j'allais souvent le voir quand il était là.
Vous avez été le dernier, d'ailleurs, à
le voir. J'étais le dernier à l'avoir vu, oui, justement. Mais franchement, Charles, l'image qu'il donne au public n'a rien à voir avec l'image qu'il a dans le privé, ce qu'il était dans le privé. Ça avait rien à voir.
Beaucoup plus caustique dans le privé.
Il attendait la bonne vanne. Il attendait le mauvais jeu de mots. Le plus mauvais calembour, il en raffolait. Et donc, il fallait arriver avec un petit stock de d'histoire quand on passait 2-3 heures ensemble. Il fallait ça. Et d'ailleurs, il disait, merci, vous m'avez fait ma journée.
Ce rire jusqu'à la fin, la veille de sa disparition, quand vous le voyez, oui. On est encore dans le rire.
Ah oui, parce qu'il me raccompagne... Il me raccompagne à la voiture, tout ça, je vais pour partir, je lui dis « Attends, j'en ai une bonne avant de te quitter ». Et il me dit « Vas-y ». Et je lui dis « Voilà, alors l'histoire, c'est l'histoire d'un type qui voit arriver son pote qui fait la gueule. « Qu'est-ce que t'as ?» Il dit « Je viens de perdre ma belle-mère. »« Ah bon, qu'est-ce qu'elle avait ?»« Oh, rien, une télé, un frigidaire. » Et là, je vois Charles qui se marre. Puis il est parti. C'est la dernière image que j'ai de lui. Et
mais une blague sur la disparition, la dernière que vous lui faites, l'ironie du sort.
L'ironie du sort. Et là, effectivement, il disparaît dans la nuit. Et c'était consternant le lendemain d'apprendre ça, quoi.
Derniers indices pour une dernière ligne.
Un nom, cette fois. Luc Dirix. Ça vous en rappelle quelque chose?
Luc Dirix?
Oui. C'est le pseudo qu'avait utilisé un journaliste belge pour vous piéger lors d'une fausse vraie interview.
Mais, monsieur Michel Leib, nos voyeurs de Télétor, donc la télévision communautaire de Tarot Werchter.
Vous appelez ça des voyeurs?
Les voyeurs.
Des téléspectateurs.
Des téléspectateurs, je m'excuse.
Ce qui me fait rire, c'est votre accent. Vous savez que j'ai une passion dans la vie, ce sont les accents. Et vous avez un accent extraordinaire.
Michel Leib, je vous demanderais de dire ceci. C'est du néerlandais. Ça veut dire bonsoir, mesdames et messieurs, avec l'accent américain que vous faites si bien.
Sympa comme vous êtes, vous vous étiez exécuté, vous l'aviez fait. Là, on est à la fin des années 90, je crois. Aujourd'hui, si on vous demandait de nouveau à la télévision de faire les fameux accents, qu'il s'agisse de l'accent africain ou l'accent chinois, vous le feriez ou pas?
Non. Bah non, parce que ce serait très mal vu et très malvenu aujourd'hui. Hein. Si c'est pour alors se prendre un bâton et se le mettre sur la tête, c'est pareil. Donc moi, je n'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction-là, c'est-à-dire de me faire en plus aligner là-dessus. Donc j'ai plus envie de ça.
Plus envie, parce que vous l'avez entendu ces dernières années, des gens qui ont estimé qu'il y avait dans vos accents, vos imitations, un caractère raciste, vous en êtes expliqué.
Non, complètement.
Disons que c'était de la caricature et rien de plus.
Oui.
Ça vous a fait de la peine qu'on puisse vous prêter ce genre de pensée?
Bien sûr que ça m'a fait de la peine, évidemment. Ben forcément, parce que moi, j'y voyais absolument aucune forme de racisme, jamais. Et puis, il faut bien que vous sachiez, vous savez aussi, mieux que moi probablement, c'est qu'à une époque, on était invité dans les émissions, que ce soit chez Drucker ou ailleurs, pour faire les accents, pour faire des choses. Moi, j'imagine une chose qui m'est revenue en mémoire, là, il n'y a pas longtemps, c'est qu'on m'invitait sur un plateau de journal à 20h, le 31 décembre, pour dire bonne année dans toutes les langues et avec tous les accents possibles. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus possible du tout. Je me vois mal à l'être invité par de la housse et de dire sous toutes les formes possibles, bonne année à tout le monde, comme ça, avec des accents différents. C'est plus possible.
Et quand bien même on vous le proposerait, vous le feriez plus parce que c'est plus reçu de la même manière.
Mais non, puis j'ai pas envie d'avoir des courriers de menaces de mort chez moi. Non, parce que ça se passe comme ça maintenant. Il faut faire très attention. Bon, donc j'ai arrêté tout ça, ça ne sert plus à rien, c'est ridicule.
Pour autant, vous comprenez que ça ait pu en blesser certains.
Je comprends très bien que ça ait pu en blesser, je vous dis, ça m'a fait de la peine. Mais sachant qu'au départ, j'y suis allé en parfaite bonne foi et sans aucune arrière-pensée, et j'imitais aussi bien les Belges, les Chinois, les Africains, avec le même bonheur, sans aucune arrière-pensée. Parce que la caricature, c'est quelque chose qui est français, typiquement profondément français, la caricature. Et bon, moi, j'y voyais aucun mal. Il n'y avait aucune incitation à la haine, quelle qu'elle soit. Aucune, jamais.
C'est vrai que pour dissiper définitivement tout malentendu, vous aviez failli tourner dans le film Tout Simplement Noir?
Oui, malheureusement, j'étais absolument pas libre pour le tourner, mais sinon j'aurais fait partie du film avec plaisir, oui.
Michel Leb, on se retrouve dans un instant. Dans deux minutes, l'actu télé de la semaine avec Germain Sastre qui nous rejoint en studio. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Et oui, Michel Leb, vous avez joué le tombeur au théâtre. En voici un autre, il s'appelle Germain Sastre. Bonjour Germain.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse m'appeler comme ça, mais bon.
Il va au sport régulièrement.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai que je m'entretiens pour vous, Jade.
On a été agréable dans ce début de rubrique, ça ne va pas durer. Alors, Germain, comme tous les samedis, on va réviser avec vous l'info télé de la semaine,
exactement,
en partenariat avec Télé Loisirs. Michel Leb, Jade va vous donner des infos, mais aussi, méfiez-vous, parfois, elle va vous mentir, elle va vous donner des infox. Vous nous dites si... c'est comme ça qu'il faut dire.
Bah oui,
vous nous dites si vous y croyez ou pas, Michel Leb.
Éric Zemmour va devenir chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Vous y croyez ou pas, Michel Leb?
Infox. Effectivement, c'est faux. Vous avez raison, Michel. En revanche, il sera le premier invité de la nouvelle émission de Cyril Hanouna intitulée Face à Baba, un nouveau programme en prime time et en direct dans lequel l'animateur recevra des personnalités qui font l'actualité du moment. Elles répondront à ses questions et à celles de plusieurs éditorialistes. Et c'est donc Éric Zemmour qui va ouvrir le bal le 16 décembre, date à laquelle il aura sans doute annoncé sa candidature à la présidentielle. Pour autant, il ne s'agit pas de la nouvelle émission que prépare Cyril Hanouna pour l'élection dans laquelle un public de 200 personnes votera aux propositions des candidats. Celle-ci arrivera d'ici quelques semaines.
Vous les suivez, ces émissions de télé sur la politique, la campagne présidentielle, Michel Leb ?
Non, pas vraiment. Je regarde les informations en général. Je ne suis pas tous les débats. Les débats... Les débats, il n'y a rien de plus fatigant et gonflant que les débats, surtout dans des équipes où ils sont tous d'accord, plus ou moins. C'est pas du tout intéressant, voilà.
Là, vous parlez de la primaire des Républicains, voilà, et de leurs innombrables débats avant, effectivement, le congrès qui
désirera. Mais qu'est-ce qu'on s'est emmerdé ?
Ah ouais ?
C'est chiant.
Donc vous avez regardé
des gens qui sont d'accord avec vous, c'est pas intéressant.
Ah, c'est vrai qu'un débat où tout le monde est d'accord, tout à coup.
Ah bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, là.
Allez, autre info à vérifier.
Le célèbre Hit Machine, l'émission de Charlie et Lulu, va revenir sur M6. Michel Leb, il croit ou pas ?
Oula. Déjà, est-ce qu'il sait ?
Hit Machine.
Oui, d'abord, Hit Machine, oui, ça va revenir. J'aimerais bien que ça revienne.
Je pense à l'occasion de regarder.
Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux ?
Ah bah c'est hyper vrai, faux.
Oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est faux. Il s'agira d'une émission anniversaire et elle sera diffusée, alors non pas sur M6, mais sur W9 pour célébrer, alors un petit peu en avance, les 30 ans du programme culte. Le Hit Machine, passage obligé pour toutes les stars de la chanson pendant 15 ans, le samedi matin sur M6, va donc revivre le temps d'une soirée enregistrée au Dôme de Paris. De nombreux artistes qui ont fait son succès et ont répondu à l'appel. La Rousseau, Nolwenn Leroy, Garou, Soprano ou encore le groupe L5, votre groupe préféré, Eric. Les gagnantes...
Je savais tellement qu'il allait dire ça.
Ben oui,
qu'elle venait déjà dans son bar, il est trop prévisible.
Les gagnantes du premier concours Popstar se sont formées pour cette émission et elles ont chanté effectivement leur tube. Écoutez. Ah oui.
Jade et moi, on danse, mais Michel Leb, un peu moins.
Vous connaissez
cette chanson,
pas
non, j'ai écouté comme ça, mais moi, j'ai qu'une passion, vous savez, c'est le jazz.
C'est le jazz. Ah, voilà. On est un peu loin, là, en effet. Vous aussi, vous avez eu une émission de variété dans les années 80, pas des moindres. Ça s'appelait Certains Leb Show le samedi sur Antenne 2 à l'époque. Ça a réalisé à chaque fois des cartons d'audience.
Oui, jusqu'en 90, on a joué quand même.
Oui,
on a fait une dizaine d'émissions quand même.
Pourquoi pas avoir continué à animer des shows à la télé, Michel Leb ?
Ça coûte très cher, un show comme celui-là. Parce qu'on fait venir un chanteur, il faut qu'il participe à des sketchs. Donc, c'est pas seulement qu'il vient chanter sa chanson sur un plateau puis qu'il se barre. Non, non, il est là. Et puis, après, on lui fait faire des sketchs avec moi, avec d'autres artistes, etc. Et c'est jamais sur le plateau. Il faut aller en extérieur. Ça demande beaucoup d'argent.
Et du temps.
C'est la raison pour laquelle ça s'est arrêté en
90. Oui, parce que c'est long. Oui, bien sûr. C'est de l'argent, ça te coûte trop cher. Normalement, on peut faire toujours la même chose dans une petite pièce comme ici, par exemple, et puis on reste dans un studio. Mais c'était pas mon truc.
Donc, quand ça s'arrête en 90, on vous dit, bon, ça coûte trop cher, faudrait un peu redimensionner la voilure.
Voilà.
C'est vous qui dites, je continue pas dans ces conditions.
Bah oui, j'ai dit, si c'est pour plus avoir d'ailes à l'avion, c'est pas la peine. Hein, on reste au sol, donc on fait un petit truc. J'avais pas envie de faire des petits trucs.
Aujourd'hui, si on vous proposait de nouveau un show, aller mêlant humour et musique, vous seriez partant ?
Tout de suite, oui. Vous lancez un appel, vous ?
Vous faites-le. Bah,
on me lance un appel. Alors attention, je vais le lancer. Ça fait mal. Non, mais j'adorerais faire ça, présenter une émission de variété, entre guillemets, mais ça n'existe plus vraiment, avec classe, avec humour, avec un orchestre, avec des gens qui viennent chanter en direct, tout ça. Je suis persuadé que la majorité du public, si on fait un référendum, s'il y a un référendum à faire, je ferais celui-là si j'étais président de la République.
Le retour de Michel Leb à la télé.
Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse un grand show de variété ? Vous allez voir les réponses. Oui, des milliers de gens. Moi, c'est peut-être pas des tout jeunes.
L'appel est lancé. Écoutez, si ça se fait comme avec d'autres invités, toujours le même principe chez nous, on prend juste 10%.
Et voilà. Après,
bien sûr.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent.
Oui,
ici.
Mais on a fait signer 2-3 trucs. Croyez-moi, on paye nos vacances comme ça.
D'accord. Bon doute.
Allez, dernière info ou dernière intox.
Alors, 10%, la série qui nous emmène dans les coulisses du monde du cinéma, a été primée aux États-Unis. Ça vous semble plausible ou pas, Michel Leb ?
Ah oui, ça me semble plausible parce que je l'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. C'est toujours très bien fait. Les dialogues sont formidables. C'est très, très bien joué. Tous les acteurs acteurs sont formidables. Et je suis content pour la petite Camille Cotin, parce que c'est quand même. Elle fait une carrière aux États-Unis maintenant et à Hollywood.
En et là, je viens de la voir aux côtés de
Gucci, dans le film Gucci. Gucci.
Exactement. Ouais, exactement.
Non, bien, on revient à la télé, Jean.
Eh bien, alors. Effectivement, donc c'est vrai, la saison 4 de la série a remporté cette semaine à New York le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards. La cérémonie récompense.
En anglais, ça donne quoi
Ne me cherchez pas sur mon accent anglais, monsieur Dussard, parce que vous n'êtes pas mieux que moi, vous êtes pire même.
On a été trop sympa au début, vous voyez, il faut rééquilibrer.
Bref, la cérémonie récompense les meilleures productions de télé en dehors des États-Unis. Consécration donc pour le programme imaginé par Dominique Besnéard et diffusé dans 130 pays grâce à Netflix. Le producteur de cinéma a d'ailleurs confirmé qu'il y aurait bientôt une suite, probablement sous la forme eh bien, d'un long métrage dans un premier temps.
Eh bien, merci Germain Sartre.
Merci à vous.
Merci. Michel Leb, vous avez de la chance au jeu du hasard, vous ?
La chance, oui, peut-être
bon,
bien.
Bon, on va voir. On va voir si vous avez la main heureuse dans notre nouveau jeu.
Bon, oui. J'adore déjà le titre, ça s'appelle Fromage ou dessert.
Ah oui.
C'est dans quelques secondes sur RTL. A tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard. Fromage ou dessert ?
Ah, voilà une vraie question philosophique. D'autant plus importante qu'à cette heure-ci, on commence à avoir un petit creux.
Ouais, on va faire la question fromage ou dessert. On a eu 30 heures de réunion pour décider de ce nouveau rendez-vous, Michel Leb. Donc, faites-lui honneur, s'il vous plaît. Vous avez donc là deux enveloppes en main. Alors, est-ce que vous êtes fromage, dessert dans la vie ? Vous pouvez être les deux aussi. Hein.
Non, je suis dessert.
Alors, dessert. C'est parti pour l'enveloppe dessert. Il décachette. Et voici votre question.
Dans votre pièce, il est question de test ADN. Avez-vous fait. Ah non, il vous fait un pour bien être certain que Laurent Lafitte n'est pas votre fils.
Ça, c'est quand même incroyable, non ?
Il paraît.
Oui, c'est incroyable.
Vous êtes jamais croisé ?
Non ?
Non, jamais. Jamais.
Ça vous fait un choc ?
Bah écoutez, j'étais un petit peu angoissé à un moment donné parce que, avec Béatrice, mon épouse, ma femme, ma copine, mon copain, mon manager, tout ce que vous voulez, mon meilleur pote, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai pas commis une erreur, j'ai pas fait une petite connerie?
Un soir.
Bah oui, oui, et puis notre question n'est pas si là.
La question n'est pas si idiote, j'étais un peu emmerdé à un moment donné. Et puis finalement, en recoupant toutes les choses, je me suis rendu compte que ça n'était pas possible. Mais cela dit, franchement, il me ressemblait. Il me ressemble quand j'étais plus jeune.
Bah à son âge, en fait. Voilà, même âge.
Voilà, une quarantaine d'années. Voilà, c'est fini maintenant. Ça fait un moment déjà que j'ai plus 40 ans. Mais voilà, c'est vrai que quand je le vois, j'ai le sentiment comme ça de me voir il y a 40 ans. Voilà.
Formidable comédien en plus.
Oui, magnifique, absolument.
Non, il est super, votre fils.
Super, mon fils.
Votre autre fils, il y a Tom, évidemment.
Mais Tom, j'allais vous en parler, effectivement. C'est quand même lui qui est. C'est moi, mais en mieux. Hein.
Tom qui a failli représenter la France à l'Eurovision.
Qui a failli, oui.
Bah oui, l'année où ça a été annulé à cause de la pandémie.
Oui.
Il a dû être super déçu, vous aussi. Vous attendiez évidemment à le voir chanter devant 300 millions de téléspectateurs.
Moi, j'étais plus déçu que lui.
Ah oui ?
Ah oui, oui. Lui, il était. Je me suis dit, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il est très philosophe, plus que moi. Hein. Lui, il est vraiment très philosophe. Il a dit, bon, bah ouais, mais c'est bien, je le fais pas. Je ferai autre chose, hein, c'est pas grave. Il avait pourtant une belle chanson. Moi, j'ai trouvé très belle. Patrick Bruel, qui est une référence en la matière, était venu le trouver en disant, vas-y. Mais c'est vachement bien ça, faut que tu le fasses. Si tu la chantes pas, j'en chanterai moi.
Ah, vous tenez bien, hein, Patrick Bruel.
Oui, mais je fais que ce que je suis sûr de pouvoir faire, sinon je fais pas.
Allez, on va maintenant passer au zapping de la semaine avec notamment un gros coup de gueule d'Eddie Mitchell. C'est dans deux minutes, après le rappel des titres RTL, il est midi.
Merci Sébastien, jusqu'à 12h30, on refait la télé avec Michel Leb.
Le zapping de la semaine.
Et on va commencer, on en parlait, avec un coup de gueule d'Eddie Mitchell.
C'était dimanche dernier dans 7 à 8 sur TF1. Lui, grand ami de Johnny Hallyday, n'en peut plus de tous ses hommages posthumes.
Et sa mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia, les albums posthumes.
Rien à foutre.
Le concert hommage
à Paris. Ça ne m'intéresse pas du tout.
La statue.
Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais rien du tout ne m'intéresse. Voilà.
Ça vous dérange ?
Ça ne me dérange même pas. Ils font ce qu'ils veulent. Que bientôt ils le mettront avec, je sais pas moi, avec une plume dans le cul, accrochée n'importe où, je m'en fous. Je trouve ça même assez morbide, voilà.
Morbide, tous ces hommages à Johnny Hallyday. Vous partagez la vie d'Eddie Mitchell, Michel Leb, vous qui avez bien connu Johnny également.
Oui, j'ai bien connu, évidemment, comme tout le métier, d'ailleurs, tous ceux qui ont fait des émissions dans lesquelles il était invité, moi j'y étais aussi, donc bien sûr que j'ai connu Johnny qui était un amour de. Un amour de mec, d'une gentillesse, d'un naturel incroyable. Et surtout, bon, aujourd'hui, comme pour en venir à ce que vous dites, les hommages en permanence, c'est vrai que c'est fatigant. Je suis assez d'accord avec Eddie là-dessus, parce que c'est, c'est quelque chose d'assez morbide, quoi. C'est morbide, c'est quelque chose qui est... Alors, nous, quand on a perdu des gens qu'on aime, ou dans le métier, ou dans la vie de tous les jours, des gens qui sont des proches, on n'a pas besoin de tout ça pour y penser et pour les avoir avec nous, d'une certaine façon, tous ces gens qu'on aime. On n'a pas besoin de toutes ces salades et tous ces hommages qui sont très lourds à chaque fois et pénibles. Pour penser à eux et pour les aimer aussi et continuer à les aimer même s'ils sont plus là.
Donc là c'est quoi? C'est du business?
Ouais, c'est lourd et puis c'est quelque chose qui est, on sent qu'il y a probablement derrière tout ça, quand c'est télévisuel ou comment, on sent qu'il y a un intérêt d'audience, enfin tout ça c'est pas très sain, quoi. Voilà.
Alors, dans le zapping de la semaine, on a aussi une très bonne nouvelle entendue dans l'émission Bel et Bien, c'est sur France 2. D'après ce psychothérapeute, plus on vieillit, plus on est heureux.
Toutes les études qu'on a depuis quelques décennies montrent que l'âge où on se sent le moins heureux, c'est entre 30 et 50 ans. Ouais. Parce que c'est l'âge où on a le plus de pression, des pressions pour construire sa carrière, pour s'occuper de ses enfants, acheter un appartement, une maison, des choses comme ça. Et qu'en fait, le bonheur se met à augmenter de façon très forte à partir de 50 ans et atteint des pics à 60, 70 ans, puisqu'à 70 ans, la plupart des gens sont plus heureux qu'ils ne l'étaient à 20 ans. Pourquoi ? C'est l'âge où on a compris que la vie allait s'arrêter et que le bonheur, c'est pas demain, c'est maintenant.
Je suis pas d'accord.
Vous êtes d'accord avec Christophe André, là?
Je suis absolument pas d'accord avec,
non.
Ça, avec
non.
Ça, ça. Moi, je pense pas, non.
Vous n'êtes pas plus heureux aujourd'hui, vous, qu'il y a 20, 30 ans?
Non. Non, je suis heureux de tout le temps. J'ai pas changé mon degré de bonheur. C'est pas la question. Il ne périclite pas, lui, le bonheur. Au contraire, il est toujours là. Ce qui est merveilleux, j'ai trois enfants merveilleux, une femme. Je suis grand-père depuis un mois. Tout ça, c'est des choses qui sont magnifiques. Mais l'idée de savoir que on vous a fait un cadeau magnifique qui est la vie et que petit à petit ça va disparaître petit à petit, ou à moins que ça puisse disparaître brutalement, ça dépend. L'idéal, c'est effectivement que ça disparaisse brutalement et qu'on s'en rende pas compte, ça ce serait l'idéal. Mais savoir que de toute façon on va disparaître, qu'on va mourir, quoi, bref, que ça va s'arrêter, c'est, pour moi, c'est absolument pas la sagesse, c'est pas ça. La sagesse, c'est pas d'accepter ça. La sagesse, c'est de lutter contre ça. Voilà. Et ça va être pas possible parce qu'à un moment donné, on peut plus lutter. Voilà, on n'a plus la force et on va vous envoyer au cimetière, c'est l'évidence. Mais c'est quelque chose qui me fait chier profondément. Voilà, pour vous dire.
Vous restez un gamin, vous avez quel âge, Michel Leb?
Je vous dirai pas.
En tout cas, vous les faites pas.
Non, c'est vrai.
Ah non, ça vous le faites pas.
Non, mais je pense que effectivement.
Vous faites beaucoup de sport aussi. Hein.
Oui, je fais du sport, etc.
Marchez.
Je marche beaucoup, je cours un peu parce que je peux plus tellement courir. On a mal partout quand on court trop. Là, ce matin, j'ai couru un petit peu, ça y est, pof, j'ai mal au genou. Et voilà, c'est l'âge. Hein. Bon, c'est pas... bon, j'ai 74 ans, c'est pas terrible. Mais enfin, on est quand même dans la zone rouge, excusez-moi. Hein. On est quand même dans une zone un peu dangereuse.
Vous êtes en pleine forme sur scène, on peut le constater tous les soirs au théâtre.
Ça, c'est vrai.
Et ça, c'est du sport en plus, hein, la pièce In Avoir, parce qu'il y a très peu de scènes sans vous.
Ouais,
vous n'avez quasiment pas de pause, en fait.
Je suis tout le temps là, oui. Non, mais c'est vrai que le sport est capital, très important. Très important.
Michel Leb, en pleine forme, Jade, et pourtant, face à nous, nous avons l'un des plus grands hypochondriacs de la planète.
Ça, c'est vrai.
À quel point?
Ah bah, un point infernal, quoi. Un petit bouton là, ça y est, j'ai un problème. J'ai un petit mal de tête, ça y est, c'est grave. Bon, je sais pas, c'est à chaque fois un truc, ça n'est jamais simple. Faut que je vois. D'ailleurs, je vois un psy pour ça, parce que c'est vrai que tout est extrêmement grave tout le temps. Il n'y a jamais quelque chose. Ça va passer, c'est rien.
Petite migraine, c'est tout de suite où il faut faire un scanner.
Ah voilà. Un petit bouton sur la main, un petit truc n'importe où. Ça y est, j'ai quelque chose de grave.
Mais comment réagit votre entourage?
Très mal.
Sauf le psy qui se frotte les mains.
J'ai trois médecins par discipline, parce que s'il y en a
à ce point-là.
Ah ouais. J'ai trois médecins. Trois médecins par discipline.
Au cas où les deux premiers ne répondraient pas, il y a toujours trois.
Si le premier me dit tout va bien, j'appelle le second pour savoir si c'est vrai. Et si le deuxième me dit oui, tout va bien, ça va, ça fait deux contre un, allez hop, boum, super large, j'ai la majorité. Mais si le deuxième me dit non, il a tort de vous dire, ou moi je pense que c'est emmerdant, j'appelle le troisième pour voir s'il serait d'accord avec l'un des deux premiers.
Ces médecins sont aussi vos amis, j'imagine. Il n'y a pas de moment où ils vous disent bon, tu arrêtes maintenant, Michel?
Non, c'est ma femme qui me dit ça.
Ah oui.
Ma femme, elle dit, bon, ça suffit maintenant. L'autre jour, j'avais une petite douleur dans la poitrine. Il était 2h du matin. Je fais, écoute, j'ai du mal, j'ai une petite douleur. Là. Elle me dit tu m'emmerdes. Bon, alors au moins c'était clair.
Ça peut soigner,
bah
ça.
Ouais, c'est très soigné. Bah, regardez, c'est passé. Ouais, ouais.
Ah, tu m'emmerdes. Écoute, j'ai dit bon, bah, je l'appelle. Alors hop, j'appelle mon toubib.
Eh ben dites donc, en cette période de pandémie, vous devez être particulièrement angoissé. Hein.
Ah ben oui, non, mais moi j'ai fait mes trois doses. Hein.
Et vous voulez la quatrième déjà ou pas, non?
Ah ben enfin, il paraît qu'on va en avoir une quatrième dans l'année. Alors ça, elle est déjà prévue.
Si vous voyez quelqu'un qui ressemble à Michel au centre de vaccination tous les jours, c'est Michel Leb. En fait, il veut une dose par jour.
Exactement.
Allez, on retourne aux zapping.
Voilà. Michel, vous mangez parfois du saumon?
Oui, j'en mange, oui, bien sûr.
Ce que vous allez entendre maintenant est effarant. Écoutez les incroyables révélations faites par le magazine d'Hugo Clément sur France 5, qui s'appelle Sur le Front, sur les élevages de saumon, ce qu'on leur donne à manger.
Oh là. Le bruit qu'on entend là, c'est quoi?
Ça, c'est la nourriture qu'on leur envoie. C'est de la fausse nourriture, artificielle, industrielle. Et vous voyez ça, c'est une palette de couleurs pour choisir la teinte du saumon. Vous pouvez ajouter des colorants dans leur nourriture et ils auront exactement la couleur que vous voulez. S'ils n'ajoutaient pas ce colorant de synthèse, la chair du saumon serait grise. Et les études sur les consommateurs ont montré que personne ne veut acheter du saumon gris. C'est le même produit que vous trouvez dans les gélules auto-bronzantes.
Voilà, donc on mange de l'auto-bronzant et bon appétit.
Bon appétit, joyeux Noël.
Tranche de saumon devant eux.
Non, plus de saumon, fini.
Ah non, ça, c'est le saumon d'élevage. C'est du saumon sauvage, évidemment, il sera nourri naturellement.
Oui. Mais qu'est-ce qu'on mange dans les supermarchés? C'est du d'élevage ou du saumon?
Eh bien, a priori, c'est plutôt d'élevage.
Ouais. Ah bah, voilà.
Donc là, vous allez lever le pied sur le saumon, je crois.
Ouais, c'est fini.
Dans deux minutes, on va vous dévoiler les coulisses d'un événement caritatif qui est aussi la plus grosse production de la télé française, c'est le Téléthon. Ça commence vendredi prochain. On vous explique comment ça se fabrique juste après ça.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
Votre pire souvenir sur scène?
Ça a été un moment assez douloureux. Je suis rentré en scène, on m'a présenté. Et le plafond s'est effondré. Donc, j'ai pas pu faire le spectacle parce que tout s'est effondré. En quelque sorte, j'ai cassé la baraque.
Michel Leb casse la baraque, ça, c'est ce que la presse avait titré le lendemain. De toute manière, on peut le dire, vous avez à peu près tout arrivé sur scène, Michel Leb.
Ah oui, des choses absolument. Oui, souvent. Bien sûr, par exemple, le fait que le plafond s'écroule, bon, c'est arrivé. Mais c'est aussi, ça m'est arrivé, le sol s'écroule. C'est-à-dire, je suis sur scène, je me retrouve deux étages en dessous.
Non,
hein.
C'est arrivé. Mal.
Les gens applaudissent et disent, quel effet spécial.
Mais oui, parce que de toute façon, les gens sont au spectacle.
Oui.
Je me souviendrai toute ma vie, en jouant le tombeur justement, il y avait une vieille comédienne qui s'appelait Madeleine Barbulet, surtout Barbulet, le nom est absolument inouï. Madeleine Barbulet, qui était une vieille actrice de 75-76 ans, je ne sais plus à l'époque, et qui descend de trois marches pendant la pièce, qui trébuche, qui tombe et qui se pète la jambe pendant le spectacle. Les gens applaudissent, rigolent, je la prends dans mes bras, je lui dis, écoutez, je suis désolé, Madeleine vient de se péter la jambe. Ah, les gens applaudissent, comme ils venaient de passer un bon moment.
Oui, puis ça s'appelait le tombeur, donc pour eux c'était logique.
Tombait tout le monde. Alors j'ai crié rideau, mais comme les mecs étaient au bar en train de siroter, j'ai fait tout le tour et je me suis mis moi-même à baisser le rideau et à parler au public devant le rideau et dire, écoutez, c'est pas des blagues, ça n'est pas dans la pièce, je suis désolé, on va arrêter le spectacle parce que Madeleine vient de se péter la jambe.
Eh oui, c'est un terrain risqué, les scènes. Une fois, vous aviez même perdu des dents, Michel Leb.
Oui, parce que je sortais de chez le coiffeur, j'allais dire, pas du tout. Je sortais chez le dentiste. Il m'avait réparé une dent de devant. Bon, le public était là, tout allait bien. J'arrive et je prends le micro, je fais bonsoir. Et sur le bonsoir, la dent dégage. Elle était encore fixée, un peu pas très bien. Et là, voilà la dent qui part dans la salle.
Alors, et là, vous dites ça va être long.
Eh ben, ça va être long, bah oui, parce que va chercher une dent comme ça dans la salle. Alors, les gens morts de rire, pensaient que c'était dans le spectacle. Enfin, le sketch qui dure quand même une heure et demie, ça fait un peu longuet pour un. Parce qu'il était impossible d'aller remettre une dent tout de suite.
Mais vous l'avez retrouvé pour finir ou pas?
Non, jamais.
Ça va être peut-être toujours dans la salle. Jamais.
Il y a peut-être quelqu'un qui l'a quelque part.
Mais peut-être qu'il en a fait un porte-clé, donc c'est obligé. Je suis désolé. Hein.
Le plateau télé de l'invité.
Alors désolé Michel Leb, mais c'est le moment de passer aux aveux. C'est comme dans votre pièce, sauf que là, il faut juste nous avouer ce que vous aimez regarder à la télé, ça va aller. Ce soir, on vous propose un documentaire très émouvant sur C8, La Tanière, le zoo refuge de l'espoir. Un zoo qui recueille des animaux abandonnés ou maltraités. Ou alors vous pourrez regarder sur National Geographic Channel.
Très bien ça.
Air Crash, qui revient sur les célèbres crashs d'avions.
Ah non,
c'est ça très
bien.
Ça,
j'ai très bien parce que j'aime bien National Geographic. Mais alors, ça, non.
Toujours aussi flippé en avion, Michel Leb.
Ah oui, oui, non mais pourquoi vous... Mais je déteste l'avion, mais enfin j'y arrive maintenant, puisque j'ai une femme qui est vraiment très rassurante tout le temps, elle se met à côté de moi, elle me prend la main.
C'est comme ça que vous l'aviez dragué du reste,
uniquement comme ça, oui.
En disant j'ai peur, il faut qu'on se tienne là-bas.
Voilà, dans l'avion, oui. Et donc maintenant, ça fait 40 ans de ça. Hein. Il y a 40 ans, mais j'ai toujours la main tremblante.
J'ai toujours la peur.
Oui, et je lui mets toujours la main.
Vous
sur
avez
la
peur
main.
De quoi?
Ben, j'ai peur qu'il y ait, par exemple. Quand ça bouge trop, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pour ça que je suis allé en cabine. Je vais souvent en cabine.
Ah non,
pour
vous n'allez pas voir quand même les pilotes.
Si, je vais les voir. Et ils m'expliquent tout ce qui se passe. Et c'est rassurant. C'est rassurant.
Mais vous avez toujours peur.
Mais j'ai toujours un peu peur. Mais c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. J'ai un copain qui est... Alors, lui, il est claustro. Il s'appelle Alain Prost. Et il monte dans les avions. Et quelquefois, tout d'un coup, ça lui prend. Il faut qu'il descende. Sauf que... C'est pas en vol, c'est au moment où l'avion va décoller, il s'est pris d'une trouille, ouais. Et là il faut qu'il descende. Alors il bouscule tout le monde et il se met là, il dit ouvrez, il faut que je descende, tout le monde, il respire pas.
Ah non, quand il va arriver proche, ils disent non, c'est
bon. Mais un pilote de F1 qui est allongé dans un cercueil, c'est quand même un truc de fou quoi. Et lui il supporte pas ça.
Vaut mieux pas que vous voyagez ensemble alors.
Moi je suis pas claustro, quoique je peux pas prendre des ascenseurs.
Non, mais c'est... Avion, ascenseur.
Ouais, mais c'est difficile.
Vous adorez les téléphériques, je crois, en revanche.
Non, jamais un téléphérique. Moi je saute. J'ai sauté au moment où le téléphérique démarrait.
Vous prenez pour Belmondo ou quoi? Pourquoi?
Mais j'ai sauté parce que là, j'ai une trouille pas possible. J'ai tout laissé, mes enfants, les skis, ma femme. Ils sont partis, moi je suis tombé en 30 mètres de neige.
C'est une scène des bronzés, ça.
C'est une scène des bronzés, ça pourrait. Lui, il est resté bloqué dans tout le film. Moi, j'ai sauté, je n'ai pas été fou. Mais c'était dans la cabine fermée en plus. Claustrophobie. Vertige, tout, non, c'est très compliqué ça.
Vendredi prochain commencera la 35e édition du Téléthon. Téléthon d'abord créé aux États-Unis par.
J'ai failli faire la première émission. Hein.
Vous savez avec qui vous l'auriez fait la première émission du coup? Le parrain du premier Téléthon en France?
Je sais plus qui c'est.
Bah, votre idole, Jerry Lewis.
Ah, en France?
Ouais.
Il l'a fait en France?
Il l'a fait la première édition en 87.
Mais c'est moi qui devais la faire et puis, comme je n'ai pas pu la faire. Et on m'a jamais reproposé. Et
ça sonne un peu comme un regret quand vous dites
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, parce que c'est une chose que je trouve normale de faire et qu'il faudrait faire. Et je trouve ça formidable.
Voilà. Le parrain cette année, ce sera Soprano. Et peut-être l'an prochain, qui sait, Michel Leeb, un nouvel appel lancé.
Alors, je lance que des appels. Mais... Non, mais peut-être pas cette année, mais l'autre, oui. Pourquoi pas, avec plaisir.
On va parler justement de ce Téléthon.
Le Téléthon, on le disait, un grand événement caritatif, mais aussi l'une des plus grosses émissions de la télévision française. Benjamin Elfer de Télé Loisirs va nous en dévoiler les coulisses dans son décodeur. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jade, bonjour Eric et bonjour à tous.
Bonjour Benjamin.
Ce marathon télévisuel doit mobiliser des moyens colossaux.
Effectivement, on peut le dire, tous les ans, France Télévisions réalise un véritable exploit, le Téléthon. Je vous le rappelle, c'est environ 30 heures d'émission, des duplex aux quatre coins de la France, sur différents plateaux et avec de nombreux intervenants. Alors, pour orchestrer tout cela, France Télévisions déploie des moyens humains et matériels exceptionnels. Environ 250 personnes sont mobilisées partout en France pour assurer la partie technique. Des carrégies sont positionnées dans les villes ambassadrices, dans lesquelles sont construits des plateaux de télévision temporaires. Évidemment, tout cela a un coût qui est pris en charge à hauteur de 70% par France Télévisions. Le reste est payé par l'AFM, l'association du Téléthon.
D'ailleurs, est-ce que les animateurs ou les chanteurs qui interviennent lors du Téléthon sont payés?
Absolument pas. Hein. France Télévisions insiste bien sur ce point. Ni les animateurs du groupe public qui assurent la présentation, ni les artistes présents ou les invités ne sont payés. Tout se fait évidemment bénévolement pour aider la recherche. Et d'ailleurs, comme vous le savez, vous aussi, vous pouvez aider la recherche en composant le 3637 pour faire un don pendant toute la durée du Téléthon le week-end prochain.
Merci beaucoup Benjamin.
Merci
Michel Leeb, le grand passionné de musique que vous êtes, doit être hyper fort en blind test, non?
Ça dépend sur quoi?
Ah bah là, évidemment, émission sur la télé, ça va être des génériques.
Ah.
Bon, et ça... vous allez affronter Jade en plus.
Ouais.
Ah, Jade, elle doit être douée.
Ça vous fait peur.
Ah, elle est très rapide. Ah ouais, c'est un peu la Derrick de Blind Test, vous allez voir. Bon, bah écoutez, un match au sommet nous attend.
Êtes mauvais.
Bah, on va voir si vous êtes bonne au blind test en revanche. Ça arrive juste après ça. Il y a de l'enjeu. Vous aussi qui nous écoutez naturellement, vous jouez à ce blind test des génériques qui arrive dans deux minutes.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Eric Dussard.
On refait la télé sur RTL. Jukebox.
On joue tous ensemble au blind test des génériques télé. Vous qui nous écoutez et mes deux candidats en studio, Michel Leb et Jade. Vous le sentez comment aujourd'hui, Jade?
Moi, je me sens bien aujourd'hui.
Ouais. Moi, pas prête du tout. Alors, j'y connais rien.
Bon, le thème de votre pièce, Michel Leb, c'est un peu la famille.
Oui.
On va donc jouer avec des génériques de programmes qui mettent aussi la famille à l'honneur. Il y aura évidemment beaucoup de séries. Mais d'abord un jeu, un vieux jeu, né en 1990 sur TF1.
Ah ben, avec l'indice que vous venez de donner, c'est la famille en or.
Bravo Jade, la famille en or, effectivement.
Je regardais jamais ça.
Alors attention, question subsidiaire. Non, parce qu'elle fait sa maligne question subsidiaire, Jade. Alors, vous pouvez me donner quelques noms des présentateurs de la famille en or? Il y en a eu plusieurs puisqu'il existe depuis 35 ans. Et voilà, c'est ici que l'émission s'arrête, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés.
Je ne sais pas.
Eh bien, il y a eu évidemment le regretté Patrick Roy qui était
mais
le premier.
Oui, bien sûr.
Puis Laurent Cabrol, Christophe de Chavannes. Et aujourd'hui, c'est Camille Combal qui l'anime sur TF1.
Voilà. Très
Autre
bien.
Famille, cette fois, c'est une série. La meilleure dame, la grima blue, à la folie. Je sens que je vais devoir donner un indice.
Oui.
Je vous dis Annie Dupéret. C'est
la
une série.
La famille formidable.
Ah, une série famille formidable.
Bon, il y a un demi-point pour chacun, je vous signale.
Ouais, bah non, un quart de point, parce que alors, franchement,
bon, attends,
vous avez tout donné. Hein.
Non,
Annie
Dupéret,
Bernard Lecoq, la famille formidable. Maintenant, place à un autre feuilleton qui avait pour générique un tube. Et comme c'est vraiment trop facile, vous n'aurez qu'un extrait de 5 secondes.
Bonanza.
Fais pas ci, fais pas ça.
Bonanza, mec. Bonanza.
Jacques Dutronc.
La fameuse série Fais pas ci, fais pas ça.
Ça, je suis fan.
Générique tube de Jacques Dutronc, La vie des boulets et des Le Pic avec Guillaume de Tonquédec, Valérie Bonneton, Bruno Salomon, Isabelle Gélinas et Corinne Maziero, devenue depuis capitaine Marlowe, n'est-ce pas Jade?
Eh oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu
Bah voilà.
Elle parle comme ça.
Ah oui. Parle comme ça, elle
c'est
dit
bien,
non.
C'est bien.
Pour l'instant, c'est Jade qui est en tête dans ce quiz des génériques télé spéciales famille.
Attends, voilà. Je veux même pas jouer.
Bah il en reste deux, il y en a eu trois déjà. Alors on se réveille, on y va, on se mobilise. Place maintenant à une famille pas comme les autres. Personne dans le monde ne marche même pas. Bon, là encore, il va falloir sortir, à mon avis, le coffret des indices. Parce que là, je vois bien qu'il se passe rien dans vos regards respectifs.
Non.
Si je vous dis Arnold.
Arnold et Willy.
Arnold et Willy, effectivement.
Arnold et Willy, c'est une vieille série, ça.
C'est la série des années 80.
Mais je devrais connaître alors.
Ah bah, l'histoire de deux garçons défavorisés, adoptés par un richissime homme d'affaires new-yorkais. Ça avait été un gros carton, ça, dans les années 80, Arnold et Willy. Attention, on va terminer avec une famille franchement flippante.
Bonanza.
Il va absolument dire Bonanza.
C'est la mer noire en fait, donc question pour un champion.
Ah oui, j'adore ça.
Alors, est-ce que vous l'avez, Jade?
Moi, je l'ai. Hein.
Alors, dites-le, puisqu'il est déjà 14h15.
La famille Adams.
La quoi?
La famille Adams.
Ah, la famille Adams.
Eh oui. Demi-point. Eh bien, dis donc, quel match au sommet. Bravo, la famille Adams, créée en 64, qui a connu de nombreuses versions. Bravo, Jade, c'est vous qui remportez ce blind test spécial
vous
famille à la télé.
Vous avez été gentil sur ce coup-là.
Même si ça a été, quand même, effectivement, c'est une victoire
relative.
Pour son gloire.
Ok. Michel Leb, merci beaucoup d'être venu refaire la télé avec nous ce matin. Inavouable. Avec vous et Florence Pernel, c'est à voir la Comédie des Champs-Élysées pendant quelques semaines encore, avant une grande tournée à travers toute la France dès le mois de janvier prochain.
Merci beaucoup Michel Leb, un dernier aveu à nous faire, peut-être c'est moment ou jamais en tout cas.
Un aveu?
Oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? C'est là qu'il me dit non.
Alors là, attention à vos questions.
Non, un très bon moment. On m'avait prévenu, on m'avait dit, tu vas voir, ils sont extrêmement bienveillants, ils sont gentils comme tout, ils sont drôles, ils vont vite, et c'est exactement ce que j'ai ressenti.
Eh bien c'est très gentil.
C'est gentil.
Vous êtes le bienvenu, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Jade.
C'est une bonne chose, demain.
Ok, bah vous serez tout seul parce que nous on n'est pas
voilà,
là.
Vous pouvez toujours venir. Hein,
la
maison
on laisse
vous
la lumière, le chauffage, vous serez bien.
Voilà.
Nous on revient samedi prochain avec Jade. En attendant, le replay d'On refait la télé disponible d'ici quelques minutes sur l'appli RTL, sur RTL.fr, nos bonus et vidéos. Et puis bien sûr sur nos comptes Twitter et Instagram, des vidéos des coulisses de cette émission et des interviews inédites de notre invité. On vous laisse avec le journal inattendu d'Anaïs Bouton qui vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de l'Elysée avec Gaël Tchakaloff. Très bon week-end sur RTL. Ciao,
salut,
ciao.
Salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.